Bonjour Héloïse.
Bonjour Julia, bonjour Julia Deck. Comment allez-vous?
Ben, ça va pas mal, ça va pas mal. C'est avec les circonstances.
Voilà, alors en effet, la semaine dernière, maintenant, nous aurions dû avoir le plaisir de vous accueillir sur une invitation conjointe du grand-père et de Sylvain Prudhomme, qui est donc l'auteur associé à la scène nationale depuis maintenant 2 saisons. Nous savons tous évidemment les raisons qui nous ont poussés à renoncer à votre venue et nous espérons vivement avoir une occasion prochainement de tous nous retrouver. Je vous remercie donc vivement Julia d'avoir accepté de prendre quelques instants pour un petit entretien donc depuis votre intérieur vers d'autres intérieurs et ainsi donc bienvenue à tous ceux qui auront l'occasion de nous écouter. Juste un tout petit mot, Julia, vous avez publié 4 romans, tous sous la très belle et très enviée couverture Minuit, donc les éditions de Minuit. Le premier était Viviane Elisabeth Fauville, ensuite Le Triangle d'hiver, Sigma a suivi, et puis plus récemment, donc Propriété privée. Ces 4 romans ont tous des filiations entre eux. Peut-être Sigma a fait un petit pas de côté, mais malgré tout, on retrouve dans tous une sorte de folie, enfin en tous les cas un endroit de bascule assez possible, voire tout à fait efficient. Des codes de l'enquête du roman policier, tous ils amusent et inquiètent aussi. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous raconter un peu vos journées, peut-être d'écriture?
Oui, bah écoutez, je pense que comme beaucoup de gens, cette période, ça a commencé par quelques jours de sidération où tout était remis en question en permanence et on essayait de se remettre un petit peu sur pied. Et puis, bah, étant désœuvrée par ailleurs, puisque j'enseigne, l'école a fermé et toutes les manifestations littéraires, bah, malheureusement, ont dû s'interrompre pour l'année, bah, je me suis retrouvée face à mon ordinateur. Et puis finalement, pour un écrivain, c'est quand même pas une situation très très inédite. Et donc j'ai retrouvé assez vite cette espèce de rythme que j'ai eu spécialement dans des résidences d'écriture où on n'est pas forcément chez soi, où on se retrouve dans un lieu isolé, où on n'a pas vraiment beaucoup de contact avec le monde. Donc finalement, ben, ça m'aide, finalement, oui, ça structure assez bien les journées. Je passe des matinées à écrire, matinées qui durent à peu près jusqu'à 15 h, et puis après, bon, ben, après la vie. Mais voilà, c'est peut-être que pour les écrivains, le confinement, dans la mesure où on peut se concentrer sur un projet, où on n'est pas trop anxieux par ailleurs, ou alors où on arrive à chasser l'anxiété, ben, c'est peut-être un petit peu plus vivable.
Oui, bien sûr. Là, c'était un temps d'écriture. Vous parlez de matinée. Là, c'est un temps d'écriture sur un projet que vous avez en cours.
Oui, alors ce qui m'a aidé aussi à me plonger dans ce travail, c'est que c'est un projet que j'avais commencé l'été dernier et que j'avais dû interrompre pour faire cours et puis pour me consacrer à la promotion de propriété privée qui est donc parue en septembre 2019. Je suis allée parler dans pas mal de librairies, j'ai fait beaucoup de déplacements. Donc tout ça s'est arrêté brutalement, mais le projet était déjà bien enclenché, d'autant que c'est une forme de suite du précédent livre. Donc je ne me suis pas non plus retrouvée à devoir penser du jour au lendemain à un projet que j'aurais pas du tout imaginé.
Eh oui, j'avais entendu, je crois, dans une interview, en effet, qu'il était probable que Propriété privée bénéficie d'une suite, en tous les cas, que les lecteurs bénéficient d'une suite à Propriété privée.
Oui, je suis pas complètement à l'aise avec le mot suite.
Oui.
Pour le moment, j'en ai pas trouvé un meilleur. Mais parce que suite, ça donne l'impression que c'est une série en plus d'épisodes. Alors, c'est pas du tout ça. Peut-être que bon, propriété privée, c'est l'histoire d'un couple qui emménage dans un éco-quartier où ils pensent avoir acheté la maison de leurs rêves. Et puis, dès la première minute de l'emménagement, ça se passe pas du tout comme ils souhaitaient. Il se produit toutes sortes d'intrigues dans le voisinage. Et puis, le quartier n'est pas du tout aussi éco qu'ils l'imaginaient. Donc, rapidement, le côté voisinage tourne à un intrigue policière. Et puis, c'est vrai que ce livre où il y a pas mal de personnages, enfin, on découvre petit à petit tout l'entourage du couple principal, j'ai eu envie de, arrivé au bout du livre, j'ai eu envie de tirer d'autres fils. Je me suis dit, je vous livre là mon projet tel qu'il est actuellement, mais peut-être ça va évoluer. Mon idée, c'était de reprendre certains personnages pour les faire évoluer dans un tout autre décor, une toute autre intrigue. Donc c'est là-dessus que je travaille pour le moment.
Oui, parce que j'imagine volontiers qu'il ne s'agit pas de résoudre les mystères. Enfin, je crois que vous tenez pas mal au mystère, en tous les cas, aux choses qui restent un petit peu incertaines. Donc, je crois volontiers, j'imagine qu'il ne s'agit pas de résoudre les mystères qui restent à la fin de propriété privée.
C'est vrai que la fin de propriété privée est en suspens parce que j'ai du mal à finir un livre en général. J'ai toujours envie de m'en garder pour la suite. Et puis j'aime bien aussi que le lecteur, ou en tant que lectrice, j'aime bien continuer à vivre dans le livre que je viens de finir. Donc j'aime pas les fins définitives, si on peut dire. Mais en l'occurrence, j'ai quand même laissé dans propriété privée une ou deux questions en suspens que j'imagine de pouvoir résoudre dans cette suite qui sera donc pas une suite puisque le nom de suite ne convient pas.
C'est une poursuite.
Ça serait une poursuite, là c'est très bien une poursuite. Merci beaucoup.
Et puis le sentiment comme ça un peu d'incertitude, bon, il tient au fait qu'il y a encore une fois, je le disais là juste avant, mais il y a un peu de. Effectivement, il y a un peu. Il y a pas, je ne sais pas si c'est exactement deux parties parce que ça s'installe pas comme ça, mais il y a en effet une partie qui n'est pas sociologique, mais qui est un traitement presque sociologique de bien que ça soit tout à fait un roman, mais un peu justement de cette migration là, je sais pas si on peut parler de migration, mais en tous les cas des Parisiens qui quittent la ville dans laquelle il est évidemment, chacun sait, de plus en plus difficile de se loger, vers des espèces de villes en dehors des frontières de la ville, des villes qui se construisent un peu différemment et qui évidemment provoquent des changements dans l'environnement. Et tout le monde aura l'occasion de le découvrir en lisant Propriété privée. C'est aussi ça provoque aussi des changements sur les gens eux-mêmes, en fait, pour qui plein de choses tout d'un coup basculent. Et puis donc il y a vraiment une attention aussi à l'urbanisme. Ce n'est pas situé que dans cet endroit-là. On parle aussi de En l'occurrence, c'est de la place des fêtes et de rénovation urbaine, etc. Et puis, il y a tout d'un coup, c'est pas tout à fait tout d'un coup d'ailleurs, parce que vous le disiez dès le début, on comprend qu'il y a quand même une chose qui va pas du tout se passer comme prévu. Et puis, tout d'un coup, quand même, on repart effectivement sur un roman policier. Donc, il n'y a pas tout à fait deux parties, parce qu'on comprend dès les premières pages que ça va pas être riant à tous les étages pour les personnages, mais il y a un moment où quand même, on bascule vraiment dans l'enquête.
Oui,
Non, non,
non,
allez-y.
pardon.
Non, non.
Oui, j'étais en train de me dire en vous écoutant qu'en effet, il y a cette importance du décor qui est en l'occurrence un éco-quartier en grande banlieue parisienne, mais à vrai dire, ça pourrait être un éco-quartier dans n'importe quelle agglomération, métropole. J'arrive pas à construire un roman sans me représenter très très précisément le décor. C'est vraiment essentiel, le décor et les personnages qui y vivent. C'est comme si le décor était un personnage à part entière. Et en plus, j'ai besoin que ce décor, il existe vraiment. Ou alors que ce soit un amalgame de décors que j'ai pu visualiser dans différents endroits, d'où peut-être la dimension sociologique, parce que j'ai vraiment besoin que les personnages et les lieux soient très fortement incarnés. Pour moi, c'est la seule condition pour développer une réelle intrigue de fiction, parce que je suis très attachée à la fiction. En aucun cas, il s'agit de récits, c'est vraiment des personnages, c'est vraiment une intrigue, mais pour moi, elle ne peut pas être hors sol. Donc, c'est vrai que dans chaque livre, il y a un milieu géographique, un milieu social différent, et là, en l'occurrence, oui, c'est celui qu'on décrivait.
Oui, mais ça, on le sent, enfin, on le sent vraiment parfaitement bien sur une chose c'est d'ailleurs très, très, très intéressant sur le rapport justement avec cette forme de réalité très installée dans le décor, mais c'est pas un décor uniquement, enfin, dans le fond, c'est presque pas juste un décor que vous installez pour la narration, pour les personnages. Il y a aussi un décor, j'ai le sentiment en tant que lectrice, du coup, que c'est aussi un décor dans lequel vous pouvez installer votre lecteur. C'est-à-dire qu'on y est enfin, bienvenue. Pas tant que vivre dans cet éco-quartier là fait complètement rêver. Plus on avance dans le livre, mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est aussi le décor du lecteur et qu'il y fait un peu ça et qu'il y fait aussi un petit peu son chemin avec les réalités un peu variées que vous installez, avec les couches ou les strates, voilà, avec cette attention dingue aux objets, leur rapport au personnage. En tous les cas, j'ai l'impression on parlait des éditions de Minuit comme l'école du regard. J'ai vraiment l'impression qu'en effet, ici, là, les objets permettent d'installer tout le monde, que le décor est en effet un personnage important, mais que c'est aussi celui dans lequel le lecteur peut s'installer en lisant, en fait.
Bah, l'intérêt du décor, c'est qu'on puisse on puisse se le représenter visuellement dans sa tête. Donc c'est pas une affaire de description, d'écrire des pages et des pages sur à quoi ça ressemble de manière statique, même si ça c'est tout à fait respectable, mais ça c'est pas mon projet. C'est ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de sélectionner des éléments communs qu'on peut tous se figurer et qui vont permettre d'être rapidement à la place des personnages, quoi.
Oui, ça c'est assez précis et fin et très efficace, pas dans le sens productif, mais vraiment très efficace. Voilà, on y est vraiment très très oui très très installé. En même temps, on est aussi un petit peu mal à l'aise parce que ce qui déroule et ce qui tout d'un coup se révèle de chacun de ses voisins est assez effrayant. Et ce qui est assez effrayant aussi, c'est que là, on est installé dans une chose qui est petite, enfin, je veux dire, à l'échelle d'un éco-quartier, mais qu'on pourrait en effet transposer pratiquement à des échelles bien plus importantes que celle-ci, quoi. C'est une sorte de petit miroir de poche un peu déformant et un peu inquiétant.
Bah, oui, ça c'est la nécessité du roman, c'est que en effet, un éco-quartier, en général, là, dans le livre, c'est 8 maisons, 4 maisons qui font face à 4 autres maisons, et dans la réalité, un éco-quartier, c'est souvent bien plus de logements. Mais là, je voulais vraiment qu'on rencontre tout le voisinage, donc j'ai dû me limiter et prendre des caractères qui soient un petit peu ouais, représentatifs. Parce que je pouvais malheureusement pas mettre 200 personnes dans mon roman, même si j'adore pas faire ça. Mais j'ai pas encore osé.
Et là, on peut, non, c'est un peu tôt pour savoir quels sont les personnages qu'on pourrait retrouver par la suite.
Ah, c'est difficile à dire parce que ça m'oblige à dire des choses sur la fin de
Bien
propriété
sûr,
privée. Donc peut-être ça c'est une conversation qu'on pourra avoir entre
voilà.
lecteurs quand on se rencontrera vraiment. Mais ouais, je vais garder ça un petit peu pour la suite.
Oui, mais je comprends, ça participe du mystère, on attendra. Mais justement, en parlant de lieux et de lieux de vie hors ce temps d'écriture que vous pouvez consacrer maintenant depuis quelques semaines à ce projet en cours, est-ce que cette situation inédite, quand même, assez surréelle dans un réel pourtant bien bien dur. Est-ce que ça a provoqué chez vous une nécessité ou une envie de d'écrire d'écrire autre chose qui soit vraiment nourrie de ce qu'on vit aujourd'hui, et encore une fois, je le dis, de ce qu'on vit tous, on le sait, dans des conditions différentes, bien sûr.
Oui, en fait, je pense que j'ai réussi aussi à me plonger dans ce projet de roman à partir du moment où j'ai intégré la situation. Parce que je vois pas, même si on a l'habitude de périodes de solitude liées à l'écriture, je vois pas comment on peut en faire abstraction, tellement c'est pas normal. Et très vite, en fait, depuis le premier jour du confinement, je me suis dit qu'il fallait aussi en faire quelque chose, la réaction immédiate étant de faire un journal du confinement. Le problème, à mon sens, du journal de confinement, c'est que qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez raconter votre journée, vous allez raconter vos pensées, mais en fait, ça va vous confiner encore plus, parce que non seulement vous allez vivre confiné, mais vous allez écrire votre confinement. Donc je me suis dit non, ça c'est pas. C'est clairement pas la direction qui va m'aider à travailler. Et je me suis finalement plutôt intéressée aux rares moments où on a le droit de sortir. Donc, je suis sortie dès le premier jour dans le cadre légal pour aller faire des courses, pour aller faire de l'exercice. Et ce qui m'a frappé, mais ce qui frappe tout le monde, c'est à quel point les rapports à l'autre changent à l'extérieur, quand on fait ses courses, et à quel point la ville change. C'est peut-être moins palpable à la campagne, mais en tout cas, la ville s'est transformée du jour au lendemain. Et je me suis dit que j'allais écrire non pas de journal de confinement, mais un journal de sortie, où tous les soirs, après être rentrée des courses que j'ai à faire, par exemple, j'écris un petit peu, mais alors, pour le coup, sans me mettre d'obligation littéraire, j'ai envie de dire. Je tiens un journal où j'essaie de décrire ce qui a changé et où surtout j'essaie de ne pas parler de moi, parce que c'est vraiment, c'est sortir dans la rue, mais c'est aussi sortir dans sa tête, quoi. Et puis, en fait, j'ai jamais tenu un journal, et finalement, ça, je dois dire que dans ces circonstances, ça m'aide assez, voilà, de penser à l'autre et à l'extérieur dans les rares moments qu'on a pour le rencontrer, et qui sont ces moments qui sont d'autant plus précieux, en fait.
Et alors, ça veut dire que quand vous sortez, par exemple, vous regardez, j'imagine, un peu attentivement, et est-ce que ça veut dire aussi que vous regardez soit des choses que vous ne regardiez pas avant, soit de voir dans ce que vous pouviez regarder précédemment les choses différemment?
Alors, j'ai toujours beaucoup observé la ville parce qu'on parlait de cette histoire de décor, mais force est de reconnaître que j'aurais presque envie de dire grâce à la situation, la ville, on la voit beaucoup mieux. Il y a moins de bruit, il y a moins de monde, il y a moins de pollution. Donc, tout d'un coup, les façades deviennent plus visibles, plus remarquables. Et on s'aperçoit de choses au coin de la rue qu'on n'avait jamais vraiment remarquées ou qu'on avait remarquées sans les voir. Donc c'est aussi une expérience très étrange et intéressante. J'ai l'impression qu'on se réapproprie la ville de manière différente. Les circulations s'étant énormément accélérées ces derniers temps. Enfin voilà, tout le monde circule partout dans tous les sens. Et moi la première, je suis sans arrêt dans les transports en commun. Mais tout d'un coup, de devoir faire différemment, on se rend compte peut-être de ce que c'était que la vie dans ces villes il y a 50, il y a 100 ans. Où, voilà, c'est vraiment une expérience très différente de notre environnement.
Vous photographiez un peu ou non?
Alors, j'ose pas trop photographier, parfois j'ai envie, mais j'arrête pas de lire des histoires de gens qui se font verbaliser parce qu'ils prennent des vues spécialement remarquables en photo, parce que voilà, si on sort, c'est soit pour faire ses achats, soit pour faire de l'exercice. Quand on prend des photos, on fait ni l'un ni l'autre. Donc, oui, j'ai pris quelques photos, mais je suis pas téméraire au point de faire des reportages photographiques, voilà.
Et donc, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se parler pour échanger bien sûr sur les bouleversements que ce confinement et d'une manière générale que cette crise sanitaire provoquait bien sûr sur nos métiers, nos activités et nos pratiques et évidemment sur l'ensemble d'une activité quand même très touchée et très précarisée parfois. Et on a eu envie ensemble de justement de réfléchir à ce qu'on pouvait peut-être imaginer de participatif, en tous les cas, je ne sais pas si on peut parler de collaboratif, mais en tout cas de participatif pour proposer à celles et ceux qui ont l'habitude de suivre votre travail et ou de suivre les propositions artistiques variées du Grand Air, peut-être de partager une chose qu'on pourrait voir à mettre en commun ultérieurement, mais en tous les cas, avant de penser à l'ultérieurement, déjà dans le présent, depuis nos maisonnées, de proposer quelque chose de partageable, puisque ça l'est encore. Peut-être, je vous laisse en dire un petit mot.
Oui, donc l'idée c'était au cours de cette semaine de résidence au Grand Air, il devait y avoir un atelier d'écriture. Donc on se disait que pourquoi pas garder cette idée de l'atelier, mais de l'ouvrir et de le tenir à distance. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que ce journal de sortie, moi je proposerais volontiers de l'ouvrir. C'est-à-dire de proposer à chacun de tenir son propre journal de sortie, quelle que soit la fréquence où il ou elle sort, quel que soit l'endroit où il va, et ce qu'il y fait, est-ce que c'est de l'exercice, est-ce que c'est des courses, est-ce que c'est assister à une personne vulnérable, comme le veut l'expression consacrée. Et donc ça peut être un journal quotidien, ça peut être un journal hebdomadaire, ça peut être un récit, ça peut être un reportage, ça peut être un poème, ça peut être sous la forme qu'on souhaite, hein. Mais peut-être qu'on pourrait se donner des rendez-vous une fois par semaine, par exemple, où chacun posterait à une adresse que vous donnerez son journal ou une partie de son journal, la partie du journal qu'il aimerait montrer. Et puis je les lirai, moi-même je posterai mon journal et à la fin de cette période, eh bien, on pourrait peut-être rendre ces textes visibles, les mettre en commun, voire se rencontrer bah, une date un peu plus tardive que celle qui était prévue, mais en tout cas voir ce qu'on pourrait faire ensemble avec ces journaux, que ce soit aussi une manière de se rencontrer de façon un peu indirecte et improvisée, mais une vraie rencontre.
Oui, merci. En effet, je pense que c'est une bonne idée et une bonne piste. Effectivement, c'est une proposition évidemment généreuse et intéressante dont chacun ici ou même finalement plus largement, puisqu'il s'agit d'aller vers l'extérieur, depuis l'intérieur et via ce qui nous est donné aujourd'hui, ce qui rend les choses possibles, le site du Grand Air, évidemment les réseaux sociaux. Donc chacun pourra, s'il le souhaite, s'il a envie, dans la régularité qui lui convient ou l'irrégularité d'ailleurs, enfin voilà, en tous les cas, de s'emparer de cette proposition pour se lancer à son tour dans la forme voulue. Il n'y a pas non plus de nombre de signes. Je ne sais pas, vous ne vous contraignez pas à un nombre de signes par jour.
Je ne me contrains pas, je m'étais dit au début que j'allais faire le plus court possible, et le plus court possible étant une page. Et puis finalement, il y a des journées où j'ai des tas de choses à raconter. Et puis j'ai pas envie de choisir. Quand on écrit un roman, par exemple, on est obligé de choisir, d'aller au plus important, au plus efficace, au plus représentatif pour le personnage. Là, je me dis, pour le moment, je laisse tout tel quel. Donc il y a vraiment pas de contraintes formelles. Il n'y a vraiment pas de contraintes formelles sur la longueur. Voilà, et puis si un jour j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais j'écris quand même une ligne.
Donc, effectivement, j'encourage toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui nous entendront prochainement, enfin, sur encore une fois le site du Grand Air et puis les réseaux à profiter de cette proposition, à vous en emparer. Vous aurez bien sûr toutes les informations de l'adresse mail dont vient de parler Julia qui vous seront données. Je m'avance peut-être un tout petit peu, mais nous espérons pouvoir dès ce jeudi transmettre cette petite consigne dans les dans dans voilà sur les internets et puis après ça sera à vous de jouer si vous le souhaitez évidemment. Il me semble que je voulais ajouter une chose mais qui m'échappe ponctuellement. On s'était dit, Julia, qu'on clôturerait peut-être cet entretien par une petite lecture, parce que
Bah oui, volontiers.
c'est bien sûr le cœur de nos, de nos, de notre travail et de nos envies de faire largement partager ce qu'on a pu lire et aimer, et en l'occurrence ce que nous avons déjà partagé avec Sylvain Prudhomme, et donc je rappelle cette invitation conjointe. Donc c'est important pour nous aussi de pouvoir faire entendre la voix des auteurs et autrices qui nous interpellent et dont on considère l'importance du travail dans le paysage littéraire aujourd'hui et de faire entendre la langue, les langues de ces auteurs qui sont encore une fois voilà le cœur de nos envies et de nos souhaits de partage. Donc Julia, si vous en êtes toujours d'accord.
J'en suis toujours d'accord. Court extrait de propriété privée qui, comme son nom l'indique un peu, tourne autour de la question de l'habitat. Et voilà, je me suis dit que peut-être que cette question de l'habitat, elle résonnait un petit peu différemment aujourd'hui. D'abord, je ne m'étais pas inquiétée que tu ne prennes plus la voiture. Elle dormait au sous-sol de notre ancien immeuble. On n'en avait pas besoin pour se déplacer dans Paris. Puis j'ai compris que ce n'était pas seulement affaire de commodité. C'était que tu n'avais plus l'intention, ni maintenant, ni jamais, de te rasseoir derrière le volant. Quant au transport en commun, il ne fallait pas y songer. Tu avais commencé par éviter les longs trajets en métro, prétextant que c'était objectivement pénible de changer à Châtelet ou Montparnasse. Après quoi, tu avais fait une croix sur le souterrain dans son ensemble. Tu avais lu un article démontrant que l'air y était plus pollué que sur le périphérique. Tu n'allais pas t'asphyxier volontairement. Quand j'objectais que ça n'allait pas nous simplifier la vie, tu courais chercher l'article dans ton bureau et tu me le collais sous les yeux alors que j'épluchais les légumes ou que je remplissais le lave-vaisselle. Ensuite, c'était les bus qui avaient posé problème. Chaque mercredi, pour aller à ton rendez-vous avec Serrier, l'expédition se transformait en long calvaire. Il te fallait des heures de préparation psychologique, puis les bus étaient toujours lents, bondés de gens remarquablement inventifs dans le registre des incivilités. Bref, c'était tout vu, tu te limiterais à notre pâté de maison et tu prendrais un taxi en cas d'extrême nécessité. Notre appartement était spacieux et confortable, traversant est-ouest et bien chauffé. Nous possédions une belle bibliothèque, on pouvait très bien y passer sa vie sans s'ennuyer. Voilà, donc c'est un petit passage sur le confinement volontaire que peut-être on peut lire ou entendre différemment à la lumière de la situation qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup, Julia. C'est aussi l'occasion d'entendre ce qu'on n'a pas évidemment tout à fait pris le temps d'aborder, mais je souhaite vivement qu'on aura le temps ultérieurement. C'est la circulation régulière dans L'adresse aussi, qui est une forme d'adresse, au mari, à Charles en l'occurrence, avec le tu que vous aurez pu entendre, et avec la narratrice qui elle parle au jeu. Et j'ajouterai à ça qu'il y a aussi régulièrement des dialogues dans le cours du récit, qui sont toujours très bien enveloppés par le texte. Et on sait que c'est difficile, les dialogues. Et cette adresse ajoute parfois aux choses un peu mystérieuses qui s'y déroulent, puisque effectivement, quand on dit je ou quand on dit tu au jeu, nécessairement, ça implique un point de vue, en tous les cas, un certain regard sur une certaine histoire, qui n'est pas forcément un regard faux, mais qui n'est pas forcément un regard complet, disons. Eh bien, Julia, je crois qu'on arrive sur le timing que l'on s'était donné, ou pas loin. Je voulais évidemment vous remercier chaleureusement encore une fois d'avoir pris ce moment avec nous et pour nous.
Merci à vous, merci pour cette invitation. C'est important de partager. C'est d'autant plus important de partager maintenant qu'on est loin.
Oui, j'en suis à peu près convaincue aussi. Voilà, on ne peut qu'espérer bien sûr nous retrouver tous dans des conditions plus joyeuses et peut-être différentes. C'est marrant, tout à l'heure vous parliez d'une chose complètement anormale, et je lisais un petit texte de l'auteur Nicolas Mathieu, qui indiquait qu'aujourd'hui il avait presque plus peur de la normalité que du virus en lui-même, de ce qui allait se produire après et dans quelles conditions ou pas les choses allaient se retrouver un peu transformées par la suite. Donc cette affaire est à suivre, et en tous les cas, d'ici là, je vous souhaite évidemment de vous porter le mieux du monde, de continuer d'écrire cette poursuite et ce journal, et vraiment de vous remercier d'avoir proposé de le partager avec nous, et de partager cette petite consigne, proposition, en tous les cas invitation à l'écriture de ce journal de sortie. Et je rappelle à tous ceux qui écoutent ou qui écouteront que voilà, c'est une proposition largement envoyée et largement partageable. C'est même une proposition qu'on peut imaginer, que vous pourriez imaginer faire avec des enfants, des adolescents, enfin à tout âge, à plusieurs ou seuls. Enfin, voilà, toutes les formes sont possibles, pour peu qu'elles vous conviennent. Julia, du coup, peut-être on se retrouve en cours de ce qu'on s'était dit aussi, possiblement, c'est que on lancerait cette petite affaire ensemble, et puis peut-être qu'on ferait voilà, de manière régulière, donc comme vous l'avez indiqué, ces petits retours et ces partages, et puis peut-être. Alors, en milieu de parcours, on ne sait pas très bien où il se situe, mais en tous les cas, peut-être voir, fonction de ce qui est reçu, et ça, à envisager un autre petit entretien, cette fois directement en lien avec les textes qui auraient pu être mis en partage pour voilà, reproposer une adresse à tous et à chacun. Donc, à faire, à suivre aussi, encore une fois, sur le numérique pour le moment.
Mais volontiers, volontiers, oui, on attend de recevoir des textes, et puis on en parlera, voire peut-être on pourra en lire si les personnes nous autorisent.
Tout à fait.
Voilà, donc l'affaire est lancée.
Absolument. Merci infiniment, Julia. Bonne
Merci.
fin d'après-midi, et puis à très bientôt, à très bientôt. Voilà, à très bientôt.
Merci beaucoup, Héloïse. À
À
très
bientôt,
bientôt.
Julia. Au revoir.
Au revoir.